La soirée mémorable, étude numéro 101. Il est écrit, et ce jour sera pour vous un mémorial, et vous l'observerez comme une fête à l'Éternel, de génération en génération. Vous l'observerez comme une fête, comme une ordonnance pour toujours. La soirée mémorable est un événement très important dans le calendrier biblique. Elle a été complètement oubliée par le christianisme dominant et banalisée dans les églises de Dieu au XXe siècle. Le judaïsme a aussi introduit l'erreur et un faux système de calendrier pour détruire l'intention et le fait de son observance, la bonne journée, conformément à la loi de Dieu. Seul un reste des Samaritains et quelques petites églises de Dieu l'observent, selon le calendrier de la période du Second Temple, et comme elle l'était observée au temps de Christ et de la Première Église. Elle est aussi appelée la nuit de veille, et ce nom a une intention spécifique. La séquence entière de la Pâque est examinée dans l'étude La Pâque numéro 98. La période traditionnelle mentionnée comme la Pâque dans la Première Église chrétienne et la période commençant la nuit du dîner du Seigneur, quand Christ a été emmené captif, après le repas qu'il a eu avec ses disciples le soir du jour de la préparation, avant qu'il ne soit arrêté et jugé devant le Sanhédrin juif, puis devant Pilate. Il a été ensuite crucifié, et il est mort l'après-midi du 14 Nissan, conformément à l'abattage de la Pâque. Il est mort à 15h, au moment où les agneaux étaient tués pour le repas de la Pâque de ce soir-là, qui commençait la soirée mémorable le 15e jour du premier mois. Josephus enregistre que des milliers d'agneaux étaient tués l'après-midi du 14 à partir de 15h. Dans la première église, la Pâque était un terme générique qui couvrait la période allant du 14 Nissan au dimanche de l'offrande de la gerbagitée, peu importe le nombre de jours. Les jours restants étaient classifiés comme les pains sans levain. Josephus enregistre la manière dont la Pâque était célébrée à l'époque de la période du Temple. Les agneaux de la Pâque étaient abattus de la 9e heure à la 11e heure. Voir l'ouvrage de Josephus, La guerre des Juifs, livre 6, chapitre 9, Winston, Kregel, 1981, page 588. Josephus enregistre qu'au temps de Crétius, 256 500 agneaux étaient tués à la Pâque, à Jérusalem, avec pas moins de 10 personnes par agneau, voir le même ouvrage. Nous savons avec certitude que les Samaritains, de même que les Sadducéens, ont nié toute tradition orale, et que les deux groupes observaient seulement la loi écrite. Josephus nous dit que Jean Hyrcanus a supprimé les décrets des pharisiens et qu'il a mis les Sadducéens responsables. Quoique limités en grande partie à l'aristocratie, leurs décrets ont été institués. Les pharisiens étaient populaires auprès de la multitude, parce qu'ils étaient plus modérés dans leur punition. Voir l'ouvrage des Antiquités des Juifs, livre 8, chapitre 10. Winston, même ouvrage, page 281. Josephus était lui-même un pharisien. Il est écrit à propos d'eux plus favorablement qu'il ne le devrait, mais il enregistre néanmoins les traditions mentionnées dans le Nouveau Testament. Les ajournements n'étaient pas en place à ce moment-là, comme nous le voyons du Mishnah. Introduite par étapes par les pharisiens après la captivité babylonienne, les traditions ont été rejetées par toutes les autres sectes. La suppression des pharisiens a continué sous le fils de Jean Hyrcanus, Alexandre Jannaeus, mais après sa mort, sa femme Alexandra a appuyé les pharisiens pendant 9 ans. Ils ont habilement réussi à la contrôler. Ils ont de nouveau essayé d'introduire leurs traditions. À sa mort, Aristobulus et son frère aîné Hyrcanus, qu'Alexandra avait fait souverain sacrificateur, ont fait une guerre de succession. Hyrcanus a été détrôné et le pouvoir des pharisiens s'en est allé avec lui. Voir le même ouvrage, page 289. Hyrcanus a été appuyé par l'Iduméen Antipater. Pompée a finalement dû intervenir dans la discussion. Offensé par son arrogance, Pompée a attaqué Aristobulus. Il est entré à Jérusalem et dans le temple, entrant même dans le Saint des Saints. À ce moment-là, il était aussi utilisé pour l'entreposage du trésor qu'il a laissé intact. Il a rétabli Hyrcanus et son groupe qui avaient participé et tué un grand nombre du sacerdoce en exercice. De cette façon, les pharisiens ont regagné le pouvoir, mais ils étaient arrogants et trompeurs. Ils ont été impliqués dans une intrigue malhonnête et dans une fausse prophétie sous Hérode. Hérode a fait exécuter leurs hommes principaux, y compris le nuque Bagoas, le sodomite Carus et son jeune inverti, et les gens principaux de sa propre famille qui avaient donné leur accord à la fausse prophétie concernant la cessation de son autorité. Ceux qui ont été exécutés ont semblé être pour le moins la femme de Féroras, sa mère et sa sœur, et Doris, la mère d'Antipater. Voir donc l'ouvrage « L'Antiquité des Juifs », même référence, page 358. Sous les Hérodiens, les pharisiens avaient donc un pouvoir limité, bien qu'ils aient été environ 6000 dans la secte. Le temple fonctionnait d'après l'ancien calendrier qui était observé par les Sadducéens. Les Samaritains observaient le même calendrier. Après la dispersion, les sectes rabbiniques qui ont pris la relève des pharisiens ont essayé d'introduire les ajournements. Il est ainsi allégué que les Samaritains ont alors eu des feux différents pour les fanaux aux nouvelles lunes. Pendant la période du temple, des fanaux étaient allumés, étant donné que la nouvelle lune était toujours déterminée par la conjonction, ce qui n'est pas un système d'observation. Il n'y a aucune évidence que les Samaritains aient changé à un moment ou à un autre dans l'histoire leur méthode de calcul de la nouvelle lune, que ce soit pendant ou après la période du deuxième temple. Ils observent toujours le même système aujourd'hui. Voir l'étude, le calendrier de Dieu numéro 156. La législation. La législation concernant la Pâque est trouvée dans Exode chapitre 12. Nous lisons dans Exode chapitre 12 versets 1 à 51. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte : ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites : le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et fera le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. » Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Version Louis II. Ce texte a aussi établi la séquence exacte de temps. Du verset 18, nous voyons que les 7 jours des pains sans levain sont comptés du 14e jour du premier mois jusqu'au 21e jour du premier mois. Ce 7e jour de la fête, le 21e jour du premier mois, est un jour saint. Par conséquent, la soirée du 14e commence le premier jour saint des pains sans levain quand nous dit être le 15e jour du premier mois. Nous parlons donc de la fin du 14e jour du premier mois, qui est Abib ou Nissan. Le verset 16 montre qu'il y a une sainte convocation, le premier jour des pains sans levain, que nous voyons de Lévitique 23, verset 6, être le 15e jour du premier mois. Il ne peut y avoir aucune confusion quant au début de la fête des pains sans levain, ou au moment de l'abattage de la Pâque de ces textes. Nous voyons un autre aspect du jour dans Actes chapitre 27. Nous lisons dans Actes chapitre 27, versets 27 à 36. Le 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Version Louis II. Cette activité n'est pas arrivée au premier mois, mais après le jeûne du 7e mois aux expiations. Cependant, nous pouvons déduire ici que le jour nommé le 14e a été clairement déterminé de soir à soir. La nuit du 14 précède le jour du 14. Cela confirme la position que le jour était vu comme étant de soir à soir et non du matin au matin ou de minuit à minuit ou de tout autre système. De plus, le concept du salut de l'ange de l'Éternel à qui Paul appartenait et qu'il servait est aussi vu du texte d'Actes chapitre 27 verset 23. Le concept du nouvel an en Tishri comme Rosh Hashanah est une pratique païenne postérieure au temple qui est entrée dans le judaïsme au IIIe siècle de l'ère actuelle. Dans un écrit de l'année 1894, le rabbin Kohn, rabbin en chef de Budapest, mentionne ce fait important dans l'œuvre « The Sabbatarians in Transylvania »« Les Sabbatariens en Transylvanie ». Il déclare qu'il a été introduit au IIIe siècle et à une période post-biblique, entre parenthèses, se référant au Talmud Rosh Hashanah 8a à la note du verset 18 au chapitre 7. Voir aussi l'édition de Wade Cox, traduction par Thomas McElwain et Baruch, les éditions CCG, États-Unis, 1898, aux pages 58, 106 et suivants. Bibliquement, le nouvel an est en Abib, qui est le premier mois. La Mishnah, vers l'année 200 de l'ère courante, déclare qu'il y a quatre débuts d'année et que le premier jour de Nissan est le nouvel an pour les rois et les festivals. Nous voyons donc que les dates en rapport à Esdras et à Néhémie étaient selon le premier Nissan et non pas le premier Tishri. Voir la lecture de la loi avec Esdras et Néhémie, numéro 250. À ce moment-là, Tishri était utilisé pour le calcul des années, pour les années sabbatiques et pour les jubilés. Voir l'ouvrage Rosh Hashanah 1.1e3. Nous voyons que la notion de Tishri, qui est venue de Babylone, a été enregistrée dans la Mishnah comme ayant été avancée par R. Eliazar et R. Siméon, ou Rabbin Eliazar et Rabbin Siméon, voir le même ouvrage, section 1.1d. Il n'a pas été observé comme le nouvel an dans la période du Temple. La Mishnah essaie aussi de séparer le début de la dîme du bétail à 1 Elul, voir le même ouvrage, section 1.1c. La maison de Shammai soutenait que le nouvel an, pour les arbres, était le premier Shabbat, tandis que la maison de Hillel soutenait que c'était le 15e jour de ce mois-là. Le nouvel an, à la pleine lune, est une pratique directement païenne, aussi introduite de Babylone, et sans doute associée aux plantations d'après les diagrammes de la lune. Toute cette détermination vient du judaïsme rabbinique de la période postérieure au temple. C'est seulement au IIIe siècle que nous voyons Tishri avancé par les rabbins, avec le système d'ajournement. Il a maintenant l'emprise sur le judaïsme, contrairement à la parole de Dieu. La nuit de veille. La nuit de veille vient du texte d'Exode, chapitre 12, verset 42, où nous lisons « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. » Version Louis II. Le mot traduit comme « célébrer » est « shimurim ». De là, il signifie « nuit de veille » et le mot se rencontre seulement là. Le concept de « veiller » vient du passage de l'ange de la mort et de « surveiller » pour la délivrance de notre peuple. Le mot du dictionnaire hébreu de Strong 8107, « shimur », signifiant « observation », est dérivé de la racine 8104, « shamar », qui signifie « de s'entourer d'une haie », entre parenthèses comme avec des épines. De là, il signifie « surveiller, protéger, faire attention ». Il englobe les concepts de « faire attention à soi » et d'être circonspect. Le concept n'est pas tellement d'être assis et de surveiller, mais d'être protégé, comme en s'entourant d'une haie d'épines. Cela signifie aussi de surveiller l'événement en question. C'est le concept de la Pâque, où nous sommes protégés par le sang de l'agneau, de la colère de Dieu, symbolisé dans ce concept. Notre surveillance vient donc dans l'observance et dans l'explication du symbolisme du texte. Il n'est pas nécessaire que nous restions éveillés toute la nuit à veiller, puisque nous sommes protégés de l'ange de la mort dans la Pâque. Le dîner du Seigneur du 14 et le repas du 15e du premier mois, c'est-à-dire Abib ou Nissan, nous protègent ensemble. Cependant, l'intention est que cette nuit doit être prolongée dans l'étude et la veille. Ce serait tout à fait inapproprié, par exemple, d'aller se coucher tôt cette nuit-là. Le texte dans le dictionnaire hébreu de Strong 8107 met cette nuit de côté, comme une observation spéciale étant dérivée de 8104. L'ardeur de veiller toute la nuit est louable, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Bien sûr, Israël a dû rester alerte en attendant les ordres de commencer le mouvement. Certains auraient sans doute dormi comme ils le pouvaient. Le mot « shimur » est dérivé du concept dans 8104, il signifie l'observation plutôt que le concept d'être sur ses gardes, comme nous pourrions dériver de 8104 Shamar. La variante sur 8107 Shomer, voir le dictionnaire hébreu de Strong 7763, comporte aussi une autre signification du mot Shabar dans 7763, qui inclut la signification de « scruter » ou de « veiller » dans l'attente de. Si Judas avait été alerte et avait veillé dans l'attente du Messie, il ne serait pas allé en captivité. La nuit a donc la signification d'une nuit de surveillance pour son arrivée. Elle désignait la crucifixion et l'internement et commençait la période jusqu'à l'offrande de la gerbe agitée. Plutôt que de passer une nuit blanche à veiller, ce qui est certainement permis, il est préférable de passer la nuit à expliquer aux enfants la signification de l'observation pour l'arrivée du Messie. C'est la vraie signification que nous devons comprendre de l'observation. La façon de prendre le repas sert à renforcer notre délivrance imminente des systèmes du monde. Nous lisons dans Exode 12, verset 11 « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Version 8 secondes. Comparez la façon de prendre ce repas avec la manière que Christ et les disciples ont pris le repas de la soirée de la préparation ou le chagiga. Dans Jean 13, verset 25, nous lisons « Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce ?» Version 8 secondes. Marc 14, verset 50 à 52, nous lisons « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. » Version 8 secondes. De ces deux citations, les activités du dîner du Seigneur et son arrestation ne sont clairement pas le soir de la Pâque. Les textes montrent que c'était la soirée de la préparation du 14e jour du premier mois, en préparation pour la Pâque, qui serait immolée l'après-midi du jour suivant, de la 9e heure à la 11e heure, ou de 15h à 17h. Il a été placé dans le tombeau, en soirée, juste avant le début du 15e jour du mois et le premier jour des pains sans levain, quand l'agneau de la Pâque était préparé pour être rôti et mangé cette nuit-là. Deutéronome 16, verset 2 permet que le repas de la Pâque consiste en du bétail ou en un animal du troupeau. Il peut donc être une viande pure autre que l'agneau. Il doit être rôti et mangé à la place choisie dans ce but. Deutéronome 16, verset 5 à 7 commande que nous prenions le repas de la Pâque à l'extérieur de nos portes. On nous interdit de manger la Pâque à l'intérieur de nos propres portes. Nous pouvons ensuite retourner dans nos tentes, demeures, le matin, qui est le 15 du premier mois, le premier jour saint des pains sans levain. Nous pouvons donc retourner à nos tentes ou à notre place normale de domicile. Le texte n'est pas nécessairement interprété comme signifiant à l'extérieur de tout abri. Par exemple, il serait dangereux pour une personne de 80 ans de rester dehors toute la nuit. Cela signifie que la Pâque doit être célébrée hors de nos portes, dans un logement provisoire, comme nous le voyons des autres textes. Les Samaritains ont toujours observé et observe toujours la Pâque du Seigneur, le 14e jour du premier mois, appelé Nissan, déterminé de la conjonction, et abattre l'agneau l'après-midi, vers environ 15h. Il le prépare ensuite et le mange, le 15e jour du premier mois, appelé Nissan ou Abib, après le coucher du soleil. La préparation est faite et le repas pris, leur cape sur le dos et leur bâton à la main. Ils le font à l'extérieur des portes, et sur le mont Guérésim. C'est une fête de pèlerinage et ils doivent sortir de Nablus et aller à la montagne. Ils vont sur le mont Guérésim à cause de Deutéronome 27, versets 4 à 7 dans leur version du texte hébreu. Le verset 4 du texte massorétique déclare le mont Ebal, entre parenthèses signifiant « amoncellement », comme le mont pour l'érection de la loi. C'était aussi le mont de la malédiction. Le mont Guérésim était le mont des bénédictions et de l'adoration des Samaritains. Et de là, il conserve sa signification religieuse dans cet aspect. Il est affirmé que le texte massorétique a été changé de Guérésim pour lire Ebal. Il est généralement argumenté qu'Ebal est une falsification dans le texte massorétique et qu'il devrait lire Guérésim. Les versets dans Deutéronome 27, versets 11 à 26 montre que Guérésim est pour la bénédiction et Kébal pour la malédiction. La dispute vient du fait que les offrandes pour la paix ne sont pas faites sur une montagne pour la malédiction et que l'autel devait être érigé sur cette montagne. Les Samaritains observent les sabbats et les fêtes selon le Pentateuque et le Décalogue, tandis que le judaïsme suit les 613 mitzvot. Le prétendu christianisme dominant suit le système païen des Pâques Easter, avec les mineures variations postérieures au calcul du calendrier. La plupart des érudits reconnaissent aussi que les pratiques religieuses des Samaritains sont les mêmes que celles des Juifs dans la période du Deuxième Temple. Les Samaritains suivent toujours les pratiques de la période du Deuxième Temple dans leur place de sanctuaire. Il y avait un tabernacle, il a été détruit par le Maccabée Jean Hyrcanus, hein? Il a assujetti les Iduméens lors de la même expédition et les a forcés à se convertir au judaïsme. Il n'a pas eu à s'occuper des Samaritains, à part détruire leur tabernacle, parce que leur système de calendrier était le même que celui des Sadducéens et d'après lequel le temple était dirigé. Les pharisiens n'avaient pas encore leur tradition au point d'organiser les ajournements et les sabbats consécutifs étaient communs durant la période entière du temple, comme la Mishnah le démontre. Voir l'étude de calendrier de Dieu numéro 156. Les Samaritains ont aussi refusé de suivre les fêtes de Pourim et du Hanouka. Ils calculaient les nouvelles lunes 8 mois à l'avance, selon la conjonction. Après la destruction du deuxième temple, les Juifs semblent avoir ignoré ou commodément perdu leur capacité de calculer les nouvelles lunes pour introduire les ajournements. Les rabbins ont refusé d'accepter le calcul des Samaritains et inventé leur propre calcul avec les ajournements et l'observation du croissant. Christ a été accusé d'être un Samaritain précisément parce qu'il n'acceptait pas les traditions des pharisiens. Voir Jean 8, verset 48. La soirée mémorable est une nuit pour enseigner aux enfants le but de la soirée et ce qu'ils devraient faire en cette soirée. Nous lisons dans Exode chapitre 12, versets 25 à 38 « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Version 8 secondes. La surveillance pour la délivrance, la nuit de la Pâque, a été observée comme un mémorial pour toujours. Voir Exode 12, verset 14. Cette nuit-là, nous devons surveiller pour notre délivrance. Ce soir-là, Christ a été enterré et il a été dans la terre pendant 3 jours et 3 nuits, du mercredi soir jusqu'au samedi soir, quand il a été ressuscité par le seul vrai Dieu. Le dimanche matin, à 9 h, il est monté au ciel comme l'offrande de la gerbe agitée, commençant ainsi le compte à rebours jusqu'à la Pentecôte et la récolte de l'Église en l'Esprit Saint. Par cet acte, Dieu a pris le premier-né du monde et le salut a été étendu aux païens. Nous poursuivons au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif, dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements, et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Version 8 secondes. Cette multitude mélangée en est venue à faire partie d'Israël. Par le Messie, le salut devait donc être étendu aux païens aussi. Le dîner du Seigneur fait partie de la procédure de ce festival. Le dîner du Seigneur est la première nuit, celle du 14 du premier mois, puis la deuxième nuit, celle du 15, et le repas de la Pâque, qui symbolise l'unification du monde dans Israël sous le Messie. Tous nos gens s'en souviendront pour toujours. Nous lisons cela dans Exode 13, versets 14 à 16. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras: par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Version 8 secondes. Il anticipe aussi le prochain exode qui arrivera par la main puissante de Dieu. Ésaïe chapitre 66 verset 18 à 24, nous lisons: je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Version 8 secondes. Cette nuit n'est donc pas seulement dans le passé, elle est dans l'avenir, et l'Écriture ne veut pas être anéantie. Nous lisons dans Jérémie chapitre 6, versets 16 à 19: ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent: nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent: nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, et ils ont méprisé ma loi. Version 8 secondes. Nous sommes exigés de rétablir les anciennes voies et de retourner à la loi. Nous sommes exigés d'abolir les calendriers des païens et les mystères babyloniens établis sous les traditions des rabbins, sous Hillel II en l'année 358 de l'ère courante. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 15: ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Version 8 secondes. Nous sommes exigés de restaurer la vérité donnée déjà. Nous lisons dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Version 8 secondes. Celui qui essaie de tordre les Écritures pour changer la loi et changer les temps et les saisons n'est pas du royaume de Dieu. De même que le sabbat subsiste, il en est aussi pour les nouvelles lunes et les fêtes de Dieu. Le jour des expiations ne peut pas plus être reporté que le sabbat ou les nouvelles lunes ou la Pâque. Elle sera mangée dans une maison, selon Exode 12, verset 46. Où nous lisons, « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. » Version 8 secondes. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le fiancé viendra. » Selon Matthieu 25, verset 13. Nous lisons dans Marc chapitre 13, verset 30 à 37. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Version 8 secondes. Cette génération, mentionnée par Christ dans Marc 13, verset 30, est la dernière génération. Dans une génération ou 40 ans, toutes les guerres de la fin viendront à passer. Pendant ces 40 ans, le mesurage du temple et tous les travaux de la fin seront achevés. Voir l'étude Le mesurage du temple numéro 137. Le Messie retournera et la loi sera restaurée. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Maître viendra. Nous lisons le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Voir l'étude Le Cantique des Cantiques, numéro 145. En l'année 2027-2028, nous verrons le jubilé et la restauration. Nous avons aussi un devoir envers le Dieu vivant. Nous lisons dans Actes 20, versets 28 à 35. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Version 8 secondes. Qu'il en soit dit ainsi de tous. Fin de la lecture de l'étude La soirée mémorable, numéro 101.